Alors, chers amis, je vous propose de commencer. Nous allons entrer dans ces trois chapitres du livre d'Ézéchiel, 9, 10, 11. Comme c'est un texte un petit peu long, on va faire comme la fois dernière, c'est-à-dire qu'on ne le lira pas une première fois. Je le lirai au fur et à mesure et on prendra les versets les uns après les autres. L'idée est la suivante. À la fois, on essaie de comprendre ce texte extrêmement exotique. On essaie de le comprendre en essayant de trouver ce qu'il voulait dire à l'époque. Et puis ensuite, on essaie de le comprendre pour essayer de voir ce qu'il peut nous dire encore aujourd'hui. C'est peut-être le plus difficile, mais la première étape est déjà pas gagné d'avance, je pense. Donc, comme d'habitude, c'est une séance aussi interactive que possible. Donc, comme d'habitude, je vais oublier de m'arrêter de parler. Donc, n'oubliez pas de m'interrompre. Dès que vous avez une question, une réaction, de temps en temps, j'essaierai de vous poser des questions quand même pour vérifier que vous suivez. Et je vous propose de commencer sans plus attendre pour essayer d'arriver à la fin de ce texte. Donc, Ézéchiel chapitre 9, le verset 1 dans une traduction Darby commence en ces termes. « Et il cria à mes oreilles, à haute voix, disant, « Approchez !» Vous qui avez la charge de la ville, et chacun avec son instrument de destruction dans sa main. » Bon alors, vous débarquez sur un texte comme ça, quelles sont les premières questions à vous poser ? Quelles sont les premières questions que vous posez au texte ? Alors, qui est il ? Voilà, on commence par le commencement. Qui est il ? Alors, pour cela, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première chose, ce sont les conjectures. Vous pouvez imaginer qui peut se cacher derrière ce « il ». Donc vous pouvez faire une liste d'hypothèses. Et puis la deuxième chose, pour savoir qui est vraiment « il », il s'agit de remonter dans le texte pour voir qui est, en quelque sorte, le héros dont on parle auparavant. Et si on remonte, il faut remonter en fait jusqu'au chapitre 8, verset 5, au chapitre 8, verset 5, qui est le sujet ?
Par le Fils de l'homme.
Oui, mais ce « il », une fois que vous êtes remonté jusqu'à ce premier « il », vous faites encore un petit pas pour savoir qui y a avant, en fait. Mais si vous voulez que je vous donne les réponses tout de suite, vous me le dites. Voilà, je vous laisse quand même un petit peu chercher. Voilà. Il y avait là la gloire du Dieu d'Israël, semblable à la vision que j'avais vue dans la vallée. Il me dit, donc c'est le Dieu d'Israël. Oui. Donc, de grâce, faites un petit pas de plus de temps à autre. Donc, ce « il » qui parle au chapitre 9, c'est a priori, sur le plan grammatical, Dieu, l'Éternel, le tétragramme. Bien. Ensuite, il cria, c'est peut-être un peu exagéré comme traduction, parce que ça peut... Enfin, c'est pas forcément le cri au sens du hurlement. C'est peut-être prononcé d'une voix forte. Éventuellement, ça pourrait être un éclat de rire, quasiment. Quelles sont vos autres traductions, vous ?
La Bible en français courant, « Ensuite, j'entendis le Seigneur appeler à voix forte. »
Oui.
« Et selon, puis j'entendis crier à pleine voix. »
Oui. «
Il cria d'une voix forte à mes oreilles. »
Tout le monde a crié, oui. Mais... Si vous voulez, dans le phénomène du cri, il y a le côté un peu strident, panique, etc., où on crie parce qu'on est en colère. Là, c'est plutôt la voix forte Hein, et on va la voir tout à l'heure, cette voix forte, à haute voix. Donc, je vois attentif à cela parce que le problème, une fois de plus, avec notre traduction, c'est qu'elle va avoir tendance à nous conduire vers une compréhension un poil moralisante, en fait. C'est-à-dire que si vous avez déjà lu ces chapitres, on voit qu'on est dans un récit de jugement d'Israël. Et la traduction, elle nous emmène un poil plus loin. Ce n'est pas jugement d'Israël, c'est carrément condamnation d'Israël. Il faut plus rester sur la notion de jugement qui est une notion neutre, qui est à la fois débusquer le coupable, mais aussi redire qui est la victime.
Ça veut dire que d'emblée, c'est un cri de colère, non ?
Eh bien, d'emblée, on peut le comprendre comme ça. D'emblée, il ne faudrait pas le comprendre comme ça. Il faut rester plus neutre. Crier, ça a une couleur quand même, je trouve.
C'est pas rire, hein.
Non, mais par exemple, Tzahak, ça donne Isaac. Pourquoi ? Parce que Isaac est né dans un éclat de rire, pas dans un cri d'effroi. Alors, peut-être que Sarah, sa mère, n'était pas complètement ravie de l'annonce qui lui avait été faite qu'elle serait enceinte. Peut-être que pour elle, c'était épouvantable. Mais il n'est pas improbable que ce soit plutôt un éclat de rire, fût-il nerveux, qui montre la distance qu'il y a entre ce qui lui est annoncé et ce dont elle se croit capable. Je referme la parenthèse. Approchez, vous qui avez la charge de la ville, et chacun avec son instrument de destruction dans sa main. Alors, instrument, c'est le keli, c'est un instrument, c'est assez neutre. Par contre, destruction, ça ne l'est pas tout à fait. Et si vous vous reportez au livre du Lévitique, gardez un marque-page au livre du Lévitique, on va pas mal y aller aujourd'hui, au chapitre 22, verset 25, c'est pas tant la destruction que la corruption, le fait de rendre impur en quelque sorte. C'est le même terme qui est utilisé en Lévitique 22, verset 25, un instrument de corruption, un instrument qui va conduire à l'impureté. Vous voyez, dans destruction, on sent qu'on va abîmer, mais au sens où on va supprimer. Oui. Exterminer. Vous pouvez certainement trouver d'autres traductions comme cela. Là encore, je serais moins radical. On imagine finalement six hommes qui vont être comme porteurs du fléau. Vous voyez, ça nous fait penser un peu au... quatre cavaliers de l'Apocalypse, même s'ils sont six. Six, grosso modo, c'est le chiffre qu'on utilise pour signifier quoi ? Ouais, pourquoi c'est le diable ou la destruction ou ce qui n'est pas terrible ? C'est imparfait parce que c'est juste avant sept. C'est pour ça que le chiffre de la bête dans l'Apocalypse, c'est 6, 6, 6. L'imperfection portée à son accomplissement, en quelque sorte.
Pourtant, c'est le double de la perfection, 3 fois 2, 6.
Pourquoi le 3, ce serait la perfection ? D'accord, ok. Non, la perfection, elle est plutôt sur le 7, en fait. Ouais, c'est. Ouais, mais dans la Bible, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est moyennement présent, si vous voulez. C'est-à-dire que dans la tradition, on a développé une figure trinitaire de Dieu, mais qui n'est pas aussi évidente que ça dans les textes bibliques, et notamment dans ces textes-là. En revanche, le 6 est utilisé. On parle à un moment donné du Dieu trois fois saint. Donc, si vous voulez corroborer votre hypothèse, vous pouvez la voir, c'est dans Ésaïe. Mais on n'utilise pas le 3 comme base, en fait. On va utiliser plutôt... on utilise le 3 comme base, c'est un nombre qui existe. Hein. On a même 4 fois 3 si on veut avoir les 12 tribus, même si les 12 tribus ne sont pas fondées sur les 4 fois 3, en fait. Ni sur les 2 fois 6, d'ailleurs. Et le 6, c'est ce qui n'arrive pas à aller jusqu'au 7, en fait. C'est en ce sens que c'est imparfait. Vous voyez, c'est comme si vous remontiez à Ézéchiel, chapitre 8, verset 5, sans prendre le verset précédent pour retrouver le sujet qui est repris par il. Ça, c'est imparfait. C'est moche.
Moi, je reviens, excuse-moi.
Mais vas-y.
Je reviens à ce rapprochement que tu fais entre instrument de destruction et instrument de corruption.
Oui.
Je ne vois pas très bien le rapport.
Le rapport, c'est que c'est le même mot en hébreu.
Instrument de destruction, on peut imaginer une hache, un couteau,
oui.
Une masse, etc.
Oui.
Instrument de corruption, ça peut être de l'or, de l'argent.
Ça, c'est... Ça, oui. Oui, bien sûr, ça, c'est les corruptions modernes.
Je vois dans Ézéchiel 7, j'avais repéré comme ça.
Oui.
Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera un objet d'horreur. Donc, il est bien... Là, il est bien question de... d'instruments de corruption, enfin, en quelque sorte. Hein. On corrompt les gens avec de l'argent. Hein.
Oui, c'est possible.
On détruit les gens avec des armes.
Oui, mais en fait, dans la perspective du Lévitique, à partir du moment où quelqu'un est amputé, il est impur. C'est la raison pour laquelle Jésus, qui rencontre un estropié, rencontre quelqu'un qui est impur, qui ne peut pas entrer dans le temple. En fait, la question, c'est le rapport du pur et de l'impur, du profane et du sacré, mais plus que cela, du pur et de l'impur. À partir du moment où quelqu'un est corrompu, c'est-à-dire qu'il n'est plus la ressemblance de Dieu, parce qu'il aurait été mutilé par une arme de destruction, ou parce que, on pourrait dire, il a vendu son âme à l'argent, à du pouvoir, à je ne sais quoi, dans ce cas-là, il est aussi impropre au culte. Et la corruption et la destruction, en fait, sont deux traductions plausibles. Le rapport, c'est que c'est le même terme hébreu, ce qui compte, en fait, plus que nos traductions. Je dis cela parce que ça nous met sur la piste du Lévitique qu'on va beaucoup fréquenter cet après-midi. Et que c'est un terme technique qui va nous laisser entendre que celui qui écrit est, comme je vous le laissais entendre la fois dernière, un prêtre, quelqu'un du temple de Jérusalem. Et qu'en fait, ce livre d'Ézéchiel, c'est vraiment un livre sacerdotal. Et on va peut-être même voir, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous donne un indice, qu'on va légitimer la fonction sacerdotale dans ces chapitres que l'on va lire là maintenant. Donc, ils viennent du chemin de la porte supérieure qui est tournée vers le nord. Alors ça, c'est pour corroborer l'hypothèse de François sur la corruption par l'or. Vous avez un plan du temple de Jérusalem. C'est un plan qui est orienté, c'est-à-dire que le nord est vers la partie supérieure de la feuille. Et la porte du nord, c'est la porte qui donne vers la chambre des trésors. L'ouest est à droite. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc, ces hommes se tiennent... ils viennent du chemin de la porte supérieure qui tournait vers le nord. Chacun avec son instrument de mort dans sa main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Alors là... Oui. J'ai pas dit que l'Orient était à droite ?
Oui,
oui. Oui, vous avez rectifié. C'est comme quand je chante faux, vous entendez juste. Bon. Ceci dit, si je t'ai fait comme ça, ça marche. Pour toi. Mais c'est l'effet miroir. Le nord reste au nord, mais après l'est et l'ouest, ça s'inverse. Bon, peu importe. Donc, cet homme vêtu de lin, que vient-il faire là ?
Le lin est un rapport avec le prêtre.
Alors, quel est le rapport que le lin entretient avec le prêtre ?
Il est blanc.
Il est blanc, mais... Oui. ou écru, mais c'est pas sur cette qualité chromique qu'on utilise. J'aime bien toutes ces explications super compliquées que vous allez me sortir. Donc la pureté, okay. La pureté au sens où il n'y a qu'une seule fibre, où c'est pas mélangé comme tissu. Mais on pourrait dire pareil du coton. Le coton seul est pur. Alors la ceinture de Jérémie est en lin, effectivement. Mais là, c'est carrément toute la tunique.
Mais parce que vous dites dans
oui.
Les chapelles,
oui. Mais cet homme vêtu de lin, pourquoi est-ce qu'il fait penser aux prêtres?
Mais on en a déjà vu plein comme ça dans la Bible, de gens vêtus de lin.
Oui, on en a plein. Mais ils font. Ils, oui, c'est pour ça que la réponse est simple. C'est que le lin, c'est la tenue du prêtre. Mais il faut, c'est pas toujours compliqué, hein, la Bible. Hein. Et pour voir cela, vous allez dans le livre du Lévitique, et au chapitre 6, verset 30, vous avez ça, mais sinon, le plus évident, c'est au chapitre 16, les versets 4, 23 et 32. Je vous en lis un petit peu. Lévitique 16, 4, 23, 32, vous ai-je dit. Alors, on parle du prêtre. Il revêt une tunique sacrée en lin, il met des caleçons de lin sur son corps, il se ceint d'une ceinture de lin et il se coiffe d'un turban de lin. Ce sont des vêtements sacrés. Il les revêt donc après s'être lavé le corps à l'eau. Donc, la pureté vient du fait qu'il n'y a qu'une seule fibre, et le lin est donc pour le prêtre. Le chapitre 16 est extrêmement intéressant parce que dans le Lévitique, c'est le rituel du grand pardon, le Yom Kippour. Et jusqu'à présent, on vous avait en tête que ce chapitre va parler du massacre d'Israël, de la punition d'Israël. Vous voyez, là, on est quand même dans le chapitre 16 où il pourrait y avoir peut-être un indice qu'il y a autre chose à entendre que le massacre absolu d'Israël. Ensuite, il y a un détail intéressant. Dans la traduction de Darby, c'est écrit un encrier d'écrivain à ses reins. Les reins, ça marche. Encrier d'écrivain. Ça serait en fait plus exactement un pot d'écrivain, si vous voulez une traduction littérale. Mais qu'est-ce qu'un prêtre fait avec un encrier, disons, d'écrivain à la ceinture? C'est pas un écritoire, c'est vraiment le récipient dans lequel il y aurait de l'encre et qu'on utiliserait avec un petit bout de ceci, cela pour mettre sur... Mais admettons, que fait un prêtre avec un écritoire? Oui, il écrit, ok, mais... D'où dans la Torah de Moïse, il est écrit que le prêtre doit écrire. Est-ce que c'est le job du prêtre? Et ils font quoi les scribes dans ce cas-là? Un écrivain. Ça, alors, des fois, les réponses sont un peu plus compliquées quand même. Le prêtre, quand on regarde ses fonctions dans le livre de l'Exode ou le livre du Lévitique, essentiellement, c'est le sacrifice. Son travail, c'est d'accomplir le sacrifice qui permet à chacun, à chaque croyant, d'avoir bien en tête de ce lien étroit qu'il y a entre Dieu et lui. On pourrait dire le sacrifice, c'est ce qui permet à chacun de prendre conscience, c'est un rituel qui permet à chacun de prendre conscience que le lien est maintenu entre Dieu et lui, donc il a encore sa place dans la vie. Non, ce n'est pas un couteau sacrificiel, sinon ça serait un mangeur. Là, c'est vraiment un objet plutôt pour la corruption, quelque chose de négatif. L'encrier, en fait, c'est quelque chose d'original, mais ça corrobore l'hypothèse que je vous avais formulée la fois dernière. C'est qu'en fait, les prêtres vont se mettre à écrire. Et Ézéchiel est le premier... Et peut-être que le livre d'Ézéchiel est l'un des premiers livres bibliques écrits. qui date du moment de la déportation à Babylone. Le début montre qu'il est du côté des exilés, notre Ézéchiel. Et en fait, ce texte a pour fonction de dire à quoi sert un prêtre en exil, ou plus exactement, à dire la nécessité du prêtre en exil, et même le rôle central du prêtre en exil. C'est-à-dire que c'est le prêtre qui va prendre sur lui de mettre par écrit cette mémoire qui risque d'être anéantie, d'être corrompue, d'être abîmée. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un risque majeur, c'est que si on prend l'entrée de ces hommes dans le temple de Jérusalem comme l'entrée des troupes de Nabucodonosor à Jérusalem, bien, il y a un risque effectivement de corruption, de destruction, d'éradication, mais peut-être pas tant que cela. Il y a plutôt un risque de corruption au sens où ils vont nous changer la religion, on dirait aujourd'hui. Ils vont nous pervertir. C'est-à-dire qu'ils vont nous obliger à changer de culture, de foi, etc. Et le prêtre, c'est celui qui va avoir comme soudaine mission de d'écrire quelque chose. Et ça, on le reverra tout à l'heure quand il sera question du trône. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Bien. Super.
Quand on suit le passage, pas le passage suivant, c'est pour mettre un signe sur les...
N'allez pas trop vite. On va y aller tranquillement. C'est le verset 4. Laissez-moi faire les transitions. Non, c'est vous qui faites la transition, c'est parfait. Ça marche. Donc, grâce à la transition... Oui.
Ce besoin d'écrire, effectivement, permet de garder la trace figée. Mais je pensais aux druides gaulois qui s'interdisaient d'écrire quoi que ce soit. C'était transmis, le savoir était
tradition orale.
La tradition orale, on a l'impression que quelque part, c'est une révélation.
Oui. Mais je serais prêt à vous suivre jusqu'au moment où je m'intéresse un peu à l'histoire et je me rends compte que la tradition du judaïsme est quand même plus accessible que la tradition des druides aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait que la Torah a été écrite, ça a quand même un peu sauvé l'ensemble. Ouais. Et écrite dans la langue de l'époque et retraduite quand c'était nécessaire. Le passage de l'hébreu à l'araméen, par exemple. Et puis, qu'est-ce qui sauve la Bible? C'est des gens qui décident de pas en rester au latin, parce que le latin n'est plus la langue parlée. Donc, les langues vernaculaires, c'est ce qui sauve. Donc, c'est quand même un jeu entre l'écrit et l'oral, mais c'est, en tous les cas, faire en sorte que ça passe d'une génération à l'autre. Quel était le risque? C'est que l'exil à Babylone, ce soit un génocide, et qu'il n'y ait plus une seule langue pour rendre témoignage. Si on écrit, peut-être que quelque chose subsistera.
Je dirais que l'écrit est plus facilement accessible à l'ensemble des personnes par rapport au secret de prêtre à prêtre.
Bien vu. L'Éternel lui dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elles. » Alors, je commence par la fin. Lévitique, chapitre 18, verset 26. C'est un verset sur lequel on va revenir. D'ailleurs, je vais peut-être vous l'écrire au tableau. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis 18-26, c'est pas celui-là que je voulais. Oh, ciel, c'est lequel? Mais comme c'est comme j'ai copié à chaque fois la même citation, ça n'a aucun rapport. Donc c'est pas 18-26, c'est 18-30. On a sauvé. On l'a. « 18-30, on retrouve le terme « abomination ». Mais on a plus que ça. On a observance ou statut.
Ça va être REC. On a... on a gardé... Et les abominations, c'est un terme barbare. Tout bas. Et puis, on a les lois au jugement. Ça c'est juste pour Abigail, hein. Ne t'inquiétez pas. Mais ces termes-là, ou d'autres s'ils veulent. Donc ces termes-là seront décisifs pour la suite. Et une fois de plus, on voit. On tisse une correspondance entre Lévitique et Ézéchiel. Cette marque, elle va être vraiment importante. Est-ce qu'elle vous fait penser à quelque chose? Non, oui. C'est à quoi ça vous fait penser?
À Caïn.
Caïn.
Et alors, ça introduit une distinction.
Oui.
Parce que la marque posée sur le front de Caïn,
oui.
C'était une marque pour le protéger.
Oui.
Tandis que là, c'est une marque pour trier les gens.
Mais c'est pour protéger ceux qui vont avoir la marque.
Protéger ceux qui vont avoir la marque. Mais ouais. C'est utilisé aussi, après, ceux qui n'ont pas la marque seront tués.
Oui. Est-ce que ça arrive, ça, quelqu'un qui n'a pas la marque est tué? Oui. Les Égyptiens qui n'ont pas la marque seront tués dans la sortie d'Égypte.
Ouais.
C'est quelle marque avec les Égyptiens, vous vous souvenez? Comment on fait?
C'était le sang.
Du sang
sur l'agneau.
C'est le sang de l'agneau qui est mis sur les linteaux des portes.
Ouais.
Hein, au moment du sacrifice dit Pascal. Est-ce qu'il y a encore un autre élément de marque protectrice, par exemple, qu'on a dans le texte biblique? C'est l'Apocalypse. L'Apocalypse au chapitre 7, verset 2, par exemple. Là, c'est bien, vous allez complètement de l'autre côté de la Bible. L'Apocalypse, chapitre 7, verset 2. « Je vis un autre ange monté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Gardez-vous de nuire à la terre et à la mer, etc. Avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et puis après, il y a l'histoire des 144 000.
Ça peut être aussi une marque d'élection, alors.
Ouais, c'est une marque d'élection. Non. C'est une marque de protection, quand même.
Finalement, ce terme de marque a plusieurs significations. Hein.
Alors, en fait...
Protection, élection, au contraire...
Ouais. Alors ça va être le sens, mais ce qui est intéressant, c'est de retourner... au terme hébreu. Le terme hébreu, c'est Tao.
Donc, je vous le mets ici. Donc, ça serait quelque chose comme ça.
Et ça veut dire, enfin, c'est le nom de la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Le Tav. Tao, Tav, Tao. Tav, Wav. Et dans l'hébreu moderne, ça s'écrit avec cette lettre-là. Mais dans ce qu'on appelle le paléo-hébreu, c'est-à-dire l'hébreu écrit en haute antiquité, est-ce que vous avez une idée de la manière dont on dessinait cette lettre?
Une croix.
Ah, vous voyez, hein? Mais une croix comme ça.
Voilà. Un peu le style croix de Saint-André, c'est un X. Mais c'est une croix quand même. C'est-à-dire qu'on va mettre une croix sur le front. Et
c'est une croix en sautoir.
C'est... Oui. Bon. Et c'est probablement ce signe qui avait été placé sur le front de Caïn. Sur le front de Caïn, le texte hébreu, c'est en Genèse 4, verset 15, parle d'un signe. On met un signe. Hein, ce n'est pas une marque, c'est un signe. Et le signe, c'est... Le signe hébreu, c'est Aut. C'est-à-dire la première lettre de l'alphabet et, parce que cette lettre, Wav, ça veut dire et, la première lettre et la dernière lettre. Ce que vous avez dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. En hébreu, ça se dit, je suis l'aleph, Wav, Tav. C'est le signe. Et ça, c'est exactement l'inverse de ça. Oui, c'est les mêmes lettres, mais dans l'autre sens. Ça marche ? Super. L'important, c'est que vous compreniez qu'il y ait quelques correspondances. Parce que la remarque de François sur « mais c'est un signe de protection », elle est intéressante parce qu'effectivement, Caïn, c'est quand même celui qui commet la faute de tuer son frère. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'il soit puni pour le péché qu'il a commis. Quelle va être la réaction divine ? De le protéger. Il n'est pas puni pour le mal qu'il a commis, il est protégé. Pour quelle raison ? Parce que si Dieu ne protège pas Caïn, les amis d'Abel vont vouloir se venger, ils vont probablement tuer Caïn, et que se passera-t-il ? Il y a fort à parier que les amis de Caïn veulent se venger du meurtre de Caïn et tuent les amis d'Abel. Et les connaissances d'Abel voudront se venger du meurtre des amis d'Abel, etc. Donc pour endiguer la spirale de la violence, le cercle vicieux de la violence, on protège Caïn, ça met un terme à la logique de la vengeance. Mais bien, enfin, en tous les cas, c'est amoral. Et l'évangile est amoral.
C'est ce qu'il n'y a pas dans l'islam, par exemple. C'est violence avec violence.
Voilà. Donc, à la limite, même la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est une façon de neutraliser la vengeance qui est « je vais toujours t'en rendre plus que ce que tu m'as offert dans le mal ». Quand on nous prête quelque chose de bien, on rend des fois moins bien, mais dans le mal, on rend toujours un peu plus. Et donc là, vous voyez, ça nous laisse entendre que il n'est pas aussi évident que cela qu'on soit dans une logique de la punition. Je fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent. Donc on est dans le registre de la lamentation. Donc c'est la réaction de l'homme face au mal qu'il subit, à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans de Jérusalem. À cela, donc, à ces personnes qui sont avec les petits instruments, hein, à cela, il dit à mes oreilles, « Passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'ait point compassion, et n'épargnez pas. »
Mais dites-moi, parce qu'il n'y a pas un passage au moment où Moïse prend les tables de la loi et où il s'entretue finalement. Ça ne veut dire rien.
Il y a pas mal de passages où il s'entretue. Enfin, il y a des passages où il faut punir ceux qui ont commis l'injustice et on les passe par le fil de l'épée. Mais ce n'est pas immédiatement lié aux tables de la loi. Non, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Soit il y en a qui prophétisent un peu à outrance, d'autres qui font un peu de profanation, mais ce n'est pas lié aux tables de la loi.
Mais il y a beaucoup de descriptions de ce genre dans la Bible.
Oui. Et le fait qu'on n'ait point compassion et qu'on n'épargne pas, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ?
Oui,
mais
je comprends
bien. Bah, c'est... Pourtant, ça, je trouve que c'est clair. Voilà. Tu les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ça, c'est clair comme consigne. Moi, je trouve que la consigne... Non, non. Et non, parce qu'il y a le verset 6 ensuite. Le verset 6, c'est « Tuez, détruisez, vieillards, jeunes hommes, vierges et petits-enfants et femmes, mais n'approchez d'aucun de ceux qui ont la marque et commencez par mon sanctuaire. » Donc ceux qui ont la marque vont bien être protégés. Donc là, c'est clair, il n'y a pas de contradiction dans le texte, pour une fois. Donc que votre œil n'ait point compassion et n'épargnez pas, ça veut dire que ça doit être une logique aveugle. Pas de quartier. Ne prenez pas pitié. Même les tueurs à gages ne tuent pas les enfants, en principe. Hein. Et là, on ne va pas les épargner. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose sur le terrain biblique ? C'est pas tout à fait similaire.
S'il y a quelques
lustres,
est-ce qu'on va les...
Ouais. Et alors du coup, on négocie, bon, ouais, 10 ça passe, ouais, non, 5 ça passe plus, ouais.
Non, moi, je parle,
la logique de...
Massacre des innocents avec Jésus, c'est ça, là ?
Quand
ils étaient tout petits, on les tue tous pour être sûr d'éliminer Jésus.
Non, oui, voilà.
Alors ça pourrait...
Ouais,
alors ça, c'est tuer les tous pour être sûr d'en oublier aucun. Mais il y a une autre logique dans la Bible sur tuer les tous.
Le passage par le fil de l'épée.
Ouais.
Quels sont ceux qui étaient destinés à ça ? C'était les ennemis.
Oui.
Donc c'était.
Mais pourquoi on les tuait ?
Contexte de guerre.
Oui. Et dans un contexte de guerre, quelle était la règle dans le contexte de guerre à l'époque, selon les textes bibliques ?
Parce que là,
il y a une autre hypothèse. Bah, c'est les ennemis de Dieu.
C'est des femmes, c'est des enfants, c'est des vieillards, c'est ça, tout.
Ah oui.
Ils n'ont pas la marque, on les tue.
Ils n'ont pas la marque, ils les tuent. Constance.
C'est pour ne pas en tirer profit, pas en gagner de la richesse.
Ah oui, c'est la loi du RRM. C'est voué à l'interdit, à l'anathème. C'est qu'on ne fait pas de guerre pour s'enrichir. Et donc, on ne récupère aucun bien. Les biens matériels, on ne récupère pas. Mais on ne se fait pas non plus d'esclaves. Et on ne profite pas, on ne fait pas de service de travail obligatoire, etc. C'est-à-dire qu'on ne fait, on déclenche pas de guerre pour s'enrichir. Et donc ici, c'est une façon de dire, on n'est pas là pour soumettre quoi que ce soit. On est là pour établir la vérité ou le droit. On n'est pas dans une logique de guerre un peu corrompue, finalement. On n'intervient pas dans un pays pour en profiter, pour récupérer les ressources du pays. On n'intervient pas sur Jérusalem pour s'arroger un droit sur les habitants. C'est une manière radicale de présenter la chose. Alors c'est la tactique de la terre brûlée, c'était un peu cette tactique que vous disiez, c'est éviter qu'il puisse y avoir une transmission, qu'il puisse y avoir un petit rejet qui fasse tout reverdir. Là, c'est plutôt la logique... En fait, on est dans une logique de la grâce. C'est en ce sens que l'évangile n'est pas très moral. Mais on va tuer par grâce seul. Sans espoir de retour sur investissement.
On n'est pas dans l'évangile. On est dans Ézéchiel.
Oui, on est dans Ézéchiel, mais l'évangile plonge ses racines dans Ézéchiel. Alors, je veux bien entendre votre objection. Comme quelques autres passages. Alors, le fait que ce soit immoral, en soi, ce n'est pas un problème pour le texte biblique. Parce que le pardon, c'est amoral. Pardonner quelqu'un, c'est amoral. Oui. Ah oui, oui, je comprends la difficulté, mais oui, on est bien d'accord. Mais c'est n'empêche que c'est à cela qu'on est appelé en christianisme comme l'amour des ennemis. Ce n'est pas super moral, mais bon, c'est l'évangile. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Alors, pourquoi est-ce que je dis que il y a une sorte de grâce qui s'exprime à travers ce massacre absolu? C'est que, justement, il y a, en quelque sorte, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de calcul. Et il n'y a pas de visée personnelle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour soi. Il y a un vrai désintéressement. Il y a une sorte de gratuité du geste. Bon, bien sûr, ce que je dis est proprement scandaleux. Mais le texte, c'est pour vous faire entendre que le texte joue là-dessus. C'est que le texte joue sur cette radicalité. Aujourd'hui, ce n'est pas compréhensible si on n'est pas un peu dans la provocation. Mais je le maintiens. Il y a une sorte de beauté du geste. Mais je suis heureux que vous ne l'acceptiez pas. Le texte n'est pas là pour être accepté. Oui. Une métaphore, oui. Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on ne peut pas...
Le débat perd son sens si c'est littéral. Enfin, problème. Si c'est une allégorie.
Oui, mais il y a suffisamment d'éléments dans le texte qui vont nous montrer que ce n'est pas littéral.
Est-ce qu'il ne faut pas faire une distinction entre ennemi des hommes et ennemi de Dieu? De quoi s'agit-il dans cette allégorie-là? C'est les ennemis de Dieu, non? Ou les ennemis des hommes?
Ben,
les ennemis de Dieu,
plutôt. Dans une logique très wilfridienne mono, qui est l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'homme? Et dans la logique biblique, c'est cela. Si tu n'es pas contre Dieu, tu es avec nous. Qui n'est pas mon ennemi est mon ami, en fait. Et Dieu est l'humanité portée à son paroxysme. Donc si on est contre Dieu, on est contre l'humain. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la marque du sceau ici sont ceux qui sont des barbares, finalement. Et du coup, ce texte est une invitation à ne pas laisser la barbarie au milieu de l'humanité.
Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec la prédestination? Alors, ceux qui ont une marque, ceux qui ont la marque et qui seront destinés à être protégés, c'est un peu la prédestination de saint Paul, non?
Alors, ce n'est pas une prédestination, ce serait plutôt une logique de la rétribution. Tout à l'heure, je vous lirai un passage de John Cobb. Je pense qu'Ézéchiel est un des soubassements possibles de la logique de la justice selon John Cobb de la théologie du process. Je vous lirai un petit passage quand on saura aller un peu plus loin dans Ézéchiel. Oui. Ben, l'adversaire, c'est une figure récapitulatrice de ce qui nous est hostile. Oui. Qu'on personnifie, mais c'est ce qui est opposé à nous, en fait. Commencer par mon sanctuaire. Donc, ça veut dire commencer par... éradiquer dans le temple de Jérusalem. Surtout, vous maintenez vive votre indignation. Hein. Je veux dire, vous êtes scandalisé, vous le restez. Hein. Vous maintenez ça vif. Hein. Vous mettez ça sur le feu. Hein. Bien. Votre capacité de... Hein. Bien. Bien. Donc, commencez par mon sanctuaire. Si je voulais faire de la... petite morale, je vous dirais, c'est toujours bien de commencer par balayer devant chez soi, parce que c'est toujours plus facile de voir la poutre dans l'œil du voisin que oui, c'est ça, enfin, vous avez compris, toute la charpente dans notre œil. Ah oui, c'est ça.
Commencer par mon sanctuaire, ça veut dire que le mal était dans le sanctuaire.
Oui. Mais... le verbe hébreu, c'est halal. Le verbe halal, ça signifie aussi profaner, ça signifie aussi percer. Donc ça signifie profaner mon sanctuaire.
Est-ce que ça signifie ça, ou est-ce que ça signifie que des gens profanaient le sanctuaire et que ces gens-là, ben, il fallait les tuer?
Non, c'est plutôt une invitation à profaner ou à commencer. Pour ce que j'ai lu dans la grammaire, le verbe halal ou ifil peut effectivement signifier commencer. Mais on l'utilise aussi pour profaner. Et puis, au verset suivant, on utilisera ce même verbe pour dire que les gens sont tués parce qu'ils sont percés par ce fameux fil de l'épée. Mais le verbe rendre impur, de toute façon, on l'a au verset suivant. Et il leur dit rendez impur.
Attends, je reviens.
Oui, revenons.
Commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens. Les anciens, c'était les prêtres du temple.
Oui.
Et alors pourquoi ? Ils étaient. Ceux-là n'étaient pas protégés ?
Non, c'est que.
Sur le front.
C'est que à l'entrée du temple, il y a le tribunal des anciens. Et donc, les anciens, ce sont les premiers que l'on trouve sur le chemin lorsqu'on rentre dans le temple. C'est un équivalent de Sanhédrin, disons, ou de conseil presbytéral. On commence par tuer les conseillers presbytéraux.
Oui, il y en a-t-il dans la salle ?
Il y a quelques... Les anciens, c'est les premiers qui... Non, mais pourquoi ? C'est parce que c'est le premier venu. C'est comme la fille de Jephté. C'est le premier venu. Le sort tombe sur le premier venu, pas sur le plus jeune. C'est ceux qui sont là. Les conseillers presbytéraux sont à l'accueil à l'entrée du temple. Eh ben, les premiers à récupérer les récriminations des paroissiens, c'est les conseillers presbytéraux. Quand le pasteur est à la sortie du temple, le premier à récupérer les récriminations, c'est le pasteur. Voyez, enfin, c'est celui qui est là. En fait, on paye pour sa présence et sa fidélité. Bon. Mais ce n'est pas hiérarchisé par « il faut commencer par cela parce qu'ils l'ont mieux mérité ». Plus mérité.
Le signe distinctif s'applique sur quel critère ?
Eh bien, c'est écrit, c'est ceux qui gémissent. Autrement dit, c'est ceux qui souffrent de l'injustice. Ben non ! Mais non, tout le monde ne gémit pas. C'est qu'il y en a qui considèrent que tout va bien. Et que... Ah ben ça peut arriver. Non mais attendez, c'est pas non plus une lecture pile poil à actualiser pour aujourd'hui, ici même. Mais ça peut arriver. Que tout aille très bien, Madame la Marquise. Bon, on déplore un tout petit rien, mais tout va très bien. Il arrive... qu'écrivait Louis XVI sur son journal intime le 13 juillet 1789 ? Rien. Il a signalé, grosso modo. Tout va très bien, Madame la Marquise. Bon. Mais il ne s'agit pas de faire un décalque pile sur une situation. C'est de se rendre attentif au fait que ce genre de mécanisme peut fonctionner. Et donc, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Voilà, c'est parce qu'ils sont là. S'ils ne faisaient pas leur job, s'ils étaient au champ, à batifoler, etc., eh bien, ils auraient eu la vie sauve. C'est pas moral non plus. Ils sont exterminés parce qu'ils font leur job. En quelque sorte. Bien. Alors, il leur dit « rendez impur la maison ». Rendre impur ou être impur, c'est un verbe qu'on trouve énormément dans le livre du Lévitique. Vous commencez par Lévitique, chapitre 5, verset 2, puis vous en avez plein de références. Donc c'est juste pour vous rendre attentif au fait que on est dans une logique lévitique, et pour répondre à Mohamed, ça fait partie des éléments qui montrent qu'on est dans le registre de la métaphore. Qu'on est dans le registre de la distinction entre le pur et l'impur, et que cette distinction entre le pur et l'impur, c'est une invitation à accomplir un rite de purification. Et dans le livre du Lévitique, le rite de purification, il se fait par retranchement, mise en quarantaine, et puis ensuite, un sacrifice qui dit que la période de quarantaine a atteint son terme et qu'il s'agit de réintégrer l'élément perturbateur au sein de la communauté parce qu'il l'a changé. Donc c'est un texte qui, en s'appuyant sur le Lévitique, donc le livre écrit par les Lévites, les prêtres, place cela non pas dans une logique guerrière exterminatrice, mais une logique purificatrice. Donc il y a déjà cet élément-là dont il faut tenir compte. Mais on va voir qu'au terme du chapitre 11, on aura atteint la pointe de la polémique.
Moi, je trouve un élément d'explication.
Oui.
Dans le verset 9.
Verset 9. Alors, je le lis juste avant pour que tout le monde l'ait bien. Il me dit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est excessivement grande, donc Gadol, Meod, Meod, et le pays est rempli de sang, et la ville est remplie d'injustice, car ils ont dit, l'Éternel a abandonné le pays, et l'Éternel ne voit pas.
Voilà, c'est ça l'explication.
Oui.
L'explication de toutes ces abominations, là, c'est parce qu'ils ont dit, l'Éternel a abandonné le pays. C'est, donc, ils ne croient plus en la puissance de l'Éternel, en quelque sorte. Hein.
Oui.
L'Éternel est... Voilà, ils sont défaitistes et ils ne croient plus à la puissance de Dieu.
On pourrait être plus précis, parce que par exemple, quand ils disent « l'Éternel ne voit pas », en hébreu, c'est « il n'y a pas d'éternel voyant ». C'est participe présent du verbe « voir ». Et le voyant, en fait, c'est le prophète. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dirait, au fond, il n'y a plus de programme. Il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de grande visée. On n'en est que dans du court terme. Vous voyez ? Pardon ?
Ne dérapons pas.
C'est pour ça que je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, on utiliserait ce type de vocabulaire. Je ne me prononce pas sur la situation. Je parle juste en termes de rhétorique. Et l'Éternel a abandonné le pays. C'est effectivement, il n'y a plus personne qui gouverne. Il n'y a plus personne qui préside aux destinées du pays. Une sorte d'abandon de poste.
C'est ça que le crime, hein, c'est ça, l'Éternel, c'est de dire l'Éternel a abandonné le pays.
Alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a une inversion des rapports. Mais n'y a-t-il pas un petit proverbe qui dit « quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la peste ». Quand on veut renverser un pouvoir, on l'accuse d'incompétence. Et donc, ici, manifestement, il y a une population qui n'en fait qu'à son bon plaisir et qui, pour se justifier, dit « mais nous agissons ainsi parce que, de toute façon, Dieu a quitté la partie ».
Oui, mais c'est compréhensible parce qu'ils sont en exil, ces gens-là.
Non,
non,
ils sont au temple de Jérusalem. Ils sont au temple de Jérusalem. Tout cela pour arriver au chapitre 11, où on va arriver auprès des exilés. Mais c'est effectivement ce que vous dites, si Dieu n'est pas là, on fait tout ce qu'on veut. C'est exactement ce que faisait Caïn. Il ne pensait pas qu'il était observé. Et quand Dieu lui demande « mais qu'as-tu fait de ton frère ?» Voilà. Suis-je gagné de mon frère ? Enfin, voilà, petit mensonge. Et puis Dieu qui dit « mais le cri... » monte jusqu'à mes oreilles, etc. C'est l'exemple même, chez Platon, du mythe de l'anneau de Gyges. Vous savez, cet anneau d'invisibilité. L'homme invisible, il y a eu un film là-dessus aussi. L'anneau de Gyges, une fois que ça vous rend invisible, c'est extrêmement perverse. Parce que s'il n'y a plus le regard de l'autre, effectivement, vous êtes livré à vous-même. Et là, ça devient non seulement pas très évangélique, mais pas du tout moral. Et donc, le regard de l'autre... Le regard de l'Éternel, c'est ce qui a un petit pouvoir coercitif qui fait qu'on ne fait pas tout à fait n'importe quoi. Et on n'en fait pas qu'à sa tête. Et n'en faire qu'à sa tête, ce n'est pas idéal, pour le dire avec un petit euphémisme. Et alors, il y a une inclusion au verset suivant, au verset 10. Non, peut-être je reviens sur le verset 9 pour continuer à donner des éléments quand même pour la remarque de Mohamed. Le pays est rempli de sang. Vous voyez, on est dans une façon d'exprimer les choses qui est exagérée. Bien sûr que le pays n'est pas rempli de sang. Les gens ne se noient pas dans des mares de sang. Donc on ne peut pas faire une lecture littérale de ce texte. En revanche, il est juste de dire que si le sang c'est la vie, ce que propose l'Ancien Testament, le sang désigne la vie, c'est la métaphore de la vie, eh bien la vie est répandue dans la ville. C'est-à-dire qu'on met à mal la vie. Et l'iniquité est excessivement grande, donc elle est grande, méode, très très. C'est une façon de dire qu'on a là aussi atteint une forme de paroxysme. Et la ville est remplie d'injustice. Vous voyez, le fait d'être rempli, c'est une métaphore aussi.
Mais c'est une métaphore qui dit juste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Il n'y a plus de place pour la justice. Il n'y a plus de place pour la vie. Quand on remplit quelque chose d'un élément, fût-il symbolique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Et après, c'est Dieu qui dit « Et moi aussi, mon œil n'aura point compassion et je n'épargnerai pas. » C'est exactement le pendant du verset 5. C'est exactement le pendant du verset 5. C'est exactement la même phrase. Et c'est là que ça devient intéressant, que je vais vous lire un petit peu John Cobb. Voyez comme la traduction est très pernicieuse. « Je ferai retomber leur voix sur leur tête. » Ça, c'est la logique de la rétribution. « Je ferai retomber. » Grosso modo, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Mais le texte hébreu va sur une autre piste. Le texte hébreu dit « Leur voix, leur chemin, contre leur tête, je donnerai. » Le verbe « donner », c'est autrement plus neutre que « faire retomber. Hein, »« Je donnerai, Nathan. » Donc, on est dans une logique du don, on est dans une logique de la grâce, en quelque sorte. Et il y a peut-être une part de rétribution, mais cette part de rétribution, je la comprendrais bien comme John Cobb la comprend. C'est dans « Dieu et le monde », l'édition française introduite par Raphaël Picon, pas chez Labor et Fides, mais chez Van Dieren Édition. Le législateur n'est pas la source de règles morales arbitraires et imposées établies une fois pour toutes d'en haut. Le législateur avec un L majuscule au sens du divin, disons. Il est celui qui établit des possibilités toujours nouvelles de droiture, qui à la fois détruisent et accomplissent des généralisations fondées sur le passé. Donc, il y a l'idée de détruire et d'accomplir des généralisations fondées sur le passé. Le juge n'est pas celui qui, un jour futur, récompensera et punira selon notre obéissance ou notre désobéissance, mais celui qui ne peut nous donner que ce que nous voulons recevoir. Celui qui ne peut nous donner que ce que nous voulons recevoir, récompensant, entre guillemets, ainsi, ceux qui répondent, en leur offrant de nouveaux défis plus enrichissants, mais punissant par la pauvreté de leurs nouvelles possibilités ceux qui ne répondent pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de punition qu'on s'inflige à soi-même. Il y a une logique de la rétribution.
C'est une histoire des talents.
Oui, c'est ça aussi, oui, oui. Mais c'est cette idée selon laquelle, bien sûr qu'on reçoit la monnaie de sa pièce, mais on peut essayer d'être plus subtil par rapport à la vie. On peut se dire, si on essaie de ne pas être trop dans le registre de l'image, mais de la vie quotidienne, il y a deux façons d'être dans le monde, d'être dans la vie. Il y a de prendre les événements qui nous arrivent comme des défis à relever, comme, on pourrait dire, comme peut-être de façon ludique, comme des parties d'un jeu que l'on peut jouer et qui vont nous enrichir, qui vont augmenter notre expérience, qui vont aussi augmenter nos sensations, etc. Ou alors, on va refuser tout ce qui nous arrive. Et refusant tout ce qui nous arrive, y compris les défis, ça peut être... ça peut être un nouvel enfant, ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau loisir qu'on nous propose, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être aussi un deuil, ça peut être une tâche administrative qui nous tombe dessus, ça peut être remplir sa feuille d'impôt, etc. Si on refuse cela, eh bien à chaque fois on réduit, en fait, notre existence. Là où quelqu'un va grandir à force de faire des choses différentes, grandir ne serait-ce qu'intellectuellement, mais aussi grandir dans sa représentation du monde, eh bien, un autre, en refusant tous ces nouveaux défis, en refusant toutes ces sollicitations, va au contraire réduire tout cela.
C'est des opportunités.
Oui, aux États-Unis, c'est si on n'est pas opportuniste, si on ne saisit pas les opportunités, qui n'est pas un terme superbement français, c'est pas superbement bien vu. Vous n'êtes pas vraiment partie de la catégorie des winners. Vous êtes plutôt du côté des losers. Donc, voyez ce texte en disant, enfin cette traduction en nous disant retomber. Je ne sais pas ce que vous avez comme traduction, vous. Au verset 10, je ferai retomber leur voix sur leur tête. Vous avez quoi ?
Retomber.
Retomber. Français courant, on a quoi, Marie-Lou ? Oui, 10. Oui, c'est déjà mieux.
Je n'aurai pas un regard de pitié, je ne les épargnerai pas, et je leur ferai supporter les conséquences de leur conduite.
C'est presque mieux, mais vous voyez, c'est le verbe donner malgré tout. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'offrande, je l'offrirai. Bon. Et voici l'homme vêtu de lin qui avait l'encrier à ses reins rapporta. J'ai fait comme tu m'as commandé. Eh bien, c'était un peu plus haut. Il cria à l'homme, c'est au verset 3, il cria à l'homme vêtu de lin qui avait l'encrier, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fait une marche sur tous les fronts. Voilà. Et alors, au verset 11, le fait de rapporter, c'est en fait de faire retourner la parole. Vous voyez, c'est pas rapporter au sens de jouer à la commère, de cafeter. C'est la teshuva de la parole. Et c'est intéressant parce que ça fait penser à Isaïe. Ma parole, dit Dieu, ne revient pas à moi sans effet. Vous voyez, il y a cette idée que la parole de Dieu revient à lui après avoir ensemencé, après avoir produit son œuvre. Eh bien, ici, c'est l'homme qui est habillé en lin, c'est le prêtre, qui permet à la parole de retourner à Dieu. Et en quelque sorte, c'est le prêtre qui permet l'accomplissement de la parole. Autrement dit, il permet le bilan. On peut passer à autre chose une fois que le bilan a été fait. Tant qu'on n'a pas fait le bilan, on ne sait pas si on a atteint notre objectif. Vous voyez ? Pour le dire comme ça, de façon assez banale. Alors ensuite, il va y avoir une vision qui correspond déjà un peu à quelque chose qu'on a vu, donc on ne va pas forcément prendre trop de temps, hein, puisque ça reprend un peu la vision d'Ézéchiel 1 qu'on avait vu la fois dernière. Je vais juste vous rendre attentif à quelques éléments de détail. Évidemment, dès que vous avez des questions hein, ou des suggestions, vous réagissez. Je regardais et voici... Donc celui qui regarde, c'est Ézéchiel, hein, a priori. C'est pas le... C'est un autre. Hein. Je regardais, voici sur l'étendue qui était au-dessus de la tête des chérubins. Donc les chérubins, on en a une petite illustration là sur la cuve. C'est ce qu'il y avait au-dessus de l'Arche d'Alliance, par exemple. Hein. C'est ces petits animaux ailés. Donc au-dessus de la tête des chérubins parut une pierre de saphir. Comme l'aspect de la ressemblance d'un trône au-dessus d'eux. Et alors, l'aspect de la pierre de saphir, ça on le retrouve en Exode 24, verset 10. C'est au moment de la théophanie au Sinaï. Si ce n'est qu'en principe, elle était sous les pieds. Oui, allez-y, hein, Marie-Lou, prenez Exode chapitre 24, verset 10, et vous verrez qu'il est question de saphir, si ce n'est que c'est en dessous, alors que là, c'est au-dessus. Si jamais ce n'est pas le cas, vous me dites, hein.
Une question.
Oui.
Quelle est la différence entre chérubin et ange ?
Alors, l'ange est une... C'est la fonction de messager. Donc, l'ange, c'est celui qui est porteur d'une nouvelle, porteur d'une information. Messager, c'est une bonne traduction. Le chérubin, ça vient de l'hébreu kéroub, ça désigne plutôt c'est une autre fonction aussi, c'est la fonction de gardien. Le chérubin est celui qui va protéger le jardin d'Éden, par exemple, après l'épisode d'Adam et Ève. Et les chérubins, ce sont ceux qui sont sur l'Arche d'Alliance, qui vont avoir une fonction protectrice, mais surtout qui vont servir de trône avec leurs ailes. On dit qu'ils ont chacun deux paires d'ailes, et donc elles sont déployées de telle façon que ça fasse un peu comme le siège avec le dossier. C'est la tradition, ce n'est pas dans les textes bibliques. Ce qui est dans les textes bibliques, c'est que dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la partie la plus sacrée du temple, vous voyez, à chaque fois, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent entrer. Au début, il y a le parvis des gentils, tout le monde peut y être. Et puis après, il y a le parvis où il n'y a plus que les Israélites. Puis après, il n'y a plus que les mâles israélites. Puis après, il n'y a plus que les prêtres. Puis après, il n'y a plus que le grand prêtre dans le Saint des Saints. Et c'est le seul qui puisse prononcer le nom de Dieu comme ça, une fois par an pour Yom Kippour. Et à supposer que ce ne soit pas lui, quelqu'un rentre et profane le temple, la tradition dit que, justement, les chérubins détruisent le malotru. Alors ça fait un peu Indiana Jones et la dernière croisade, mais vous n'êtes pas obligé de le garder. Dans le livre de la Genèse, celui qui garde le chemin du Jardin d'Éden a une épée qui tournoie, semblable au lasso qui tournoie dans les mains de Jésus pour nettoyer le temple des marchands.
Il s'appelle comment, ça, dans le livre de la Genèse ?
C'est un chérubin.
C'est un chérubin ?
On n'a pas le petit nom, c'est un chérub, c'est un chérubin. Marie-Lou, c'est bien le saphir dont il est question en Exode 24 ? Amen. Comme l'aspect de la ressemblance d'un trône au-dessus d'eux. Alors ça, il faut que vous alliez, si vous avez une Bible, vous allez au livre du Deutéronome, chapitre 17, verset 18, parce qu'il y a là une concentration assez intéressante également. Deutéronome, donc le cinquième livre de la Bible, chapitre 17, verset 18, c'est les règles concernant le roi, donc c'est celui qui siège sur le trône. Et quand il sera monté sur son trône royal, il écrira pour lui-même dans un livre une copie de cette loi que lui transmettront les prêtres lévites. Et là, vous ne dites pas. Bon sang, mais c'est bien sûr. D'accord, ok. Donc, on a le trône, exactement la même façon. Et puis, on a les Lévites qui, là, sont réputés avoir écrit la loi. Et en fait, ce que doit faire le roi, c'est la Mishnah de la loi. Une deuxième loi, un deutéronome, une copie de la loi. Il doit faire un deutéronome. À partir d'une loi première qui aura été écrite par les prêtres. En fait, c'est ce que fait Ézéchiel. Le Deutéronome est témoin de la scène qui est en train de se jouer avec Ézéchiel, avec tout le livre d'Ézéchiel. Ok. Très bien. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. L'enthousiasme, on trouvera d'autres passages pour susciter l'enthousiasme. C'était une sorte de mise en abîme des textes bibliques, mais il n'y a aucun souci. Vous faites comme vous voulez. Bien. Donc il parla à l'homme vêtu de lin et dit « Viens entre les roues, au-dessous des chérubins. » Donc là, on est à nouveau dans une vision avec quelque chose d'assez fantasmagorique. « Viens entre les roues, au-dessous du chérubin, et remplis le creux de tes mains de charbon de feu pris entre les chérubins. » Alors ça... oui, c'est assez étonnant. Et donc, on a quand même eu des références par rapport à ces charbons ardents. De quoi ?
Quel est le personnage ? On n'a pas mis un charbon sur sa bouche pour que...
Non, c'est le prophète. Prophète Jérémie, il me semble bien.
Mais Daniel, il marchait sur les charbons ardents.
Oui, il était même dans la fournaise.
Fournaise. Oui, non, mais c'est Jérémie.
Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces histoires de charbon de feu, on les retrouve dans le livre du Lévitique, au fameux chapitre 16, dont je vous avais parlé, au verset 12. Donc prenez la note, hein, enfin prenez-le en note. Il prend une pleine cassolette de charbon ardent sur l'autel qui est devant le Seigneur, et deux pleines poignées de parfum brûlé en poudre, et les amène au-delà du voile, et ainsi de suite. C'est le rituel du grand pardon. C'est à ce moment-là qu'on trouve le rituel du grand pardon dans le livre du Lévitique. Et c'est à ce moment-là qu'on parle des charbons de feu. Le lien intertextuel se fait là. Et le chérubin se tenait à droite de la maison lorsque l'homme entra, et la nuée remplissait le parvis intérieur. Donc la nuée, c'est Anan, c'est ce qu'on a dans le désert, hein, la nuée qui est avec le peuple hébreu, qui désigne la présence de Dieu. Et là, un autre élément pour Mohamed, c'est pas pour stigmatiser, hein, mais sa remarque était pertinente, c'est que c'est pas le tout de dire que c'est une métaphore, on va peut-être le prouver. Et c'est bien gentil de nous dire qu'il ne faut pas faire une lecture littérale, mais il faudra peut-être quelques arguments. Donc, question, remarque légitime, réponse légitime. On a dit que l'iniquité, l'injustice remplissait toute la ville, remplissait le temple. Et comment on va vider cela? Eh bien, en fait, on va le remplir par une bonne odeur, en quelque sorte. Donc, vous voyez, à cette logique de la violence, en fait, ce n'est pas un vrai passage par le fil de l'épée. On remplit par quelque chose qui est de l'ordre du rituel du grand pardon. Alors, c'est là où c'est exotique. C'est qu'il nous manque les codes. Mais pour le lecteur d'Ézéchiel, les codes sont disponibles beaucoup plus aisément. Si on avait un rituel du grand pardon, il suffirait que je dise un des éléments pour que vous y pensiez. Aujourd'hui, on pourrait avoir des réflexes pareils. Je sais pas, il suffirait qu'on prenne un élément du baptême et il suffirait d'évoquer cet élément du baptême pour qu'on pense tout de suite au baptême et ce que signifie le baptême. Vous voyez, si le baptême, c'est l'entrée dans l'alliance, etc., on pourrait prendre une parole de l'institution du baptême. Je sais pas, je suis avec vous tous les jours. Et ça nous fait penser à ce verset biblique de Matthieu qui est utilisé. Vous voyez, ça peut fonctionner comme ça. Si on a le code Lévitique 16, Yom Kippour, c'est plus facile. Et donc, il remplit. Et la gloire de l'Éternel s'éleva du dessus le chérubin et vint sur le seuil de la maison. Et la maison fut remplie de la nuée. Donc vous voyez, il y a une sorte de contagion, il y a un remplissage qui s'agrandit et qui va être en quelque sorte la contre-proposition divine. Et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Kavod Hashem. C'est la gloire de l'Éternel, c'est ce qu'on a souvent pour désigner Dieu lui-même, en fait. Par exemple, dans Exode 33, il y a Moïse qui dit « Fais-moi voir ta face ». Et puis, il y a la traduction grecque des Septante qui dit « Fais-moi voir toi-même ». Et puis, la réponse, c'est « Je vais te mettre dans une anfractuosité, je mettrai ma main sur toi, et puis je passerai, et puis tu verras ma gloire une fois que j'aurai retiré ma main, et il verra les arrières de Dieu ». Et le bruit des ailes des chérubins s'entendit jusqu'au parvis extérieur comme la voix du Dieu Tout-Puissant quand il parle. Alors, on avait déjà entendu la voix des ailes, c'était au chapitre 1, verset 24. Et cette voix des ailes, elle est comme... En fait, la parole de Dieu, c'est Dabar, et
si vous voulez, un petit parallèle dans le livre des Nombres, au chapitre 7, au verset 89, on rapporte ceci. Quand Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec le Seigneur, traduction de la Tob, il entendait la voix lui parler du haut du propitiatoire entre les deux chérubins. Le propitiatoire était sur l'arche de la charte et il lui parlait. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est un motif théologique très connu, cette histoire de chérubins, de voix. Au-dessus, propitiatoire, c'est le couvercle qui est au-dessus de l'arche sur lequel il y a les deux chérubins. Dieu Tout-Puissant, bon, c'est encore une traduction malheureuse, c'est El Shaddai. Confère une de mes récentes prédications sur comment est-ce qu'on peut traduire Shaddai. Et il arriva lorsqu'il lui commandait à l'homme vêtu de lin, disant « Prends du feu d'entre les roues, d'entre les chérubins. » Donc vous voyez, hein, ce genre de mobilier du temple, ça peut tout à fait aider à comprendre comment Ézéchiel rassemble différents éléments pour faire quelque chose d'assez fantasmagorique, mais qui est en fait une concentration, une condensation du mobilier du temple, et donc une façon de dire « le temple est là, je suis devant le temple », avec tout ce que le temple est capable de faire, notamment le rituel de Yom Kippour. Donc, voilà, il prend le feu, etc. Ensuite, verset 7, le chérubin étendit sa main entre les chérubins, donc il y a un chérubin et puis les autres chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et mit dans le creux des mains de l'homme vêtu de lin. Il le prit et sortit. Et on voyait aux chérubins la figure d'une main d'homme sous leurs ailes. Et je regardais, voici quatre roues à côté des chérubins, une roue à côté d'un chérubin, une roue à côté d'un chérubin. Et l'aspect des roues était comme l'apparence de pierre de chrysolite. La pierre de chrysolite, c'est l'une des pierres du pectoral du grand prêtre. Pour Marie-Lou, c'est Exode, chapitre 28, verset 20. Et quant à leur aspect, elles avaient les quatre une seule ressemblance, comme si une roue était au milieu d'une roue. Bon. Comme on a déjà vu ça en Ézéchiel 1, on ne va pas reprendre le détail. Quand elles allaient sur leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient pas. Elles ne faisaient pas le sabab. Sabab, c'est tourner. Et là, lo yasabu. Ça veut dire que ça avance sans se tourner. C'est droit devant. Oui, sans rayon de braquage. Elle ne braque pas, elle ne contre-braque pas. Donc, elles ne se tournaient pas quand elles allaient. Et tout leur corps et leur dos et leurs mains et leurs ailes et leurs roues étaient pleins d'yeux tout autour. Donc, les roues ne se tournent pas. Par contre, ce qui tourne, c'est les yeux. Il y a des yeux autour. Vous voyez, c'est entouré d'yeux. Quant aux roues, on leur cria, moi l'entendant, roue. Ça, c'est important. Roue. Roue tout court. Non, ça ne vous parle pas? Pourtant, c'est carrément décisif.
On en revient à ton introduction tout à l'heure, en disant on essaiera de conclure en donnant un aperçu de ce que. Comment ça pouvait être compris du temps d'Ézéchiel et comment ça peut être compris de nos jours. J'attends ta réponse.
Eh bien, grâce à roue. Le roue, c'est l'élément décisif. Mais oui, bien sûr. Roue. Gilgal. 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 Le premier sanctuaire hébreu en terre promise. Quand les Hébreux rentrent en terre promise, ils traversent le Jourdain qui est coupé, comme on coupe une alliance, et ils s'installent à Gilgal, où ils vont poser 12 pierres, une par tribu, probablement en cercle. Et Gilgal, c'est le cercle, c'est ce qui avance, c'est la roue. Et ils disent, Gilgal. Gilgal, non mais c'est pas rien. Ils sont en train de se faire jeter comme des malpropres de leur pays. Ils sont en train de se faire expulser hors de la frontière. Et qu'est-ce qu'on dit? Gilgal. La porte d'entrée en terre promise. Si ça, c'est pas un doudou spirituel. On est en train de se faire éjecter et on est en train de prononcer en quelque sorte le mot magique. Ce n'est pas un mot magique. Hein. C'est le mot qui nous fait penser à cette promesse d'entrer dans une terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire qu'il y a un appel à l'espérance. Alors, ce n'est pas une espérance bon marché, etc. On vous passe la main dans le dos, allez, ça va aller, etc. Une fois de plus. C'est cette rhétorique que l'on trouve facilement dans l'Ancien Testament. Ce qu'il a fait pour nos pères, il le fera pour nous aussi. À combien plus forte raison il le fera pour nous, puisqu'il est le Dieu des vivants. C'est sous-entendu. Dans le livre de Josué, Moïse vient de mourir. Il n'a pas pu entrer en terre promise. Il voit le salut s'accomplir en quelque sorte, mais il est enterré par Dieu au mont Nebo. Et Josué doit prendre la succession. Il se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Moi qui ne suis rien comparé à Moïse, qui est le plus grand, le dernier des prophètes. Et un peu comme il a été dit autrefois à Jacob, comme j'ai été avec lui, je serai avec toi. Et ça fonctionne. Donc, ce mot Gilgal, c'est compris comme le récit possible d'une entrée en terre promise alors qu'on est en train de se faire éjecter. Donc, tout à l'heure, on parlait des défis à relever. Il n'est pas impossible que l'exil se soit compris comme un exode. Il n'est pas impossible que l'entrée à Babylone, ce ne soit pas tant une déportation qu'un exode. La possibilité d'entrer dans une nouvelle terre promise. Et comme le temps en file, en fait, les autres chapitres, ça dit quoi? Ça dit qu'on quitte le temple de Jérusalem, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas entrer dans le temple de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'on quitte un bâtiment qui était réputé contenir Dieu qu'on ne va plus être au contact de Dieu. Il va même y avoir un renversement. C'est qu'en fait, on va être en Dieu. Mais j'espère qu'on va y arriver. On verra. C'est pas gagné. Et donc, aujourd'hui, on pourrait se dire, qu'est-ce que ce texte nous dit? Il nous dit que dans des situations qui nous donnent le sentiment de nous perdre complètement, il se pourrait qu'en fait, nous nous gagnions comme on ne s'était jamais gagné jusque-là. C'est-à-dire une situation où on a l'impression de se liquéfier, par exemple, de s'atomiser, c'est en fait peut-être une situation où nous allons pouvoir nous découvrir comme on ne s'était jamais découvert, se réaliser. C'est-à-dire que Joseph dit cela, du mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Alors, c'est un peu enfantin de le dire comme cela, mais si on essayait de le prendre pour aujourd'hui comme un message personnel, qu'est-ce que la foi? Peut-être ce qui nous permet de convertir une expérience qui a l'allure d'une expérience malheureuse en une expérience où nous allons pouvoir accomplir une partie de nous-mêmes. Nous allons peut-être même pouvoir nous épanouir. En tous les cas, il n'y a pas de fatalité dans le mal que l'on suppose. Gilgal.
C'est la porte de sortie ou la porte d'entrée?
C'est la porte. C'est ça. C'est un retournement du retournement de rapport qui avait été remarqué. C'est-à-dire que ce que l'on vous désigne comme une porte de sortie est en fait la porte d'entrée. On vous licencie. Je prends un autre exemple. Je prends un exemple provocateur. Si Napoléon n'avait pas quitté la Corse, il ne serait jamais devenu empereur. Eh bien, il est parfois des licenciements qui sont malheureux, mais on arrive à le convertir en opportunité pour un poste auquel on n'aurait jamais osé prétendre. Alors en fait, l'expression est intéressante parce que le texte dit que c'est donné à tout le monde. Votre voix vous est donnée contre votre tête. Mais il n'est pas dit que vous la receviez. Alors c'est vrai que dire cela comme ça, ça peut être accablant. Mais l'inverse serait encore pire. Ce serait de dire que notre opportunité nous est refusée. Or, ce que dit le texte biblique, c'est que l'opportunité ne nous est pas refusée. Mais vous avez raison en ce sens que nous ne sommes pas toujours en capacité de pouvoir nous saisir de cette opportunité-là. Mais d'un autre côté, le texte est en train de constituer une communauté. C'est-à-dire que le texte, dans quelques chapitres, vers le chapitre 37, va nous dire que vous n'êtes pas tout à fait isolé. Et qu'il est vrai qu'individuellement, vous soyez dans l'incapacité de vous saisir d'une opportunité. Mais il n'est pas interdit d'être aidé. Alors, humainement, ça reviendrait à dire que le regard que nous portons sur les difficultés, le regard que l'on porte sur la le regard que l'on porte sur l'événement en fait une difficulté ou une opportunité. Bien. Moi, je ne cherche pas tout à fait le consensus avec Ézéchiel. Hein. Ézéchiel n'est pas là pour faire du consensus. Hein. Alors, on peut sauter, il reste 2 minutes, donc on saute au chapitre 11. Non mais je veux dire, la suite, elle est un peu du même tonneau, ça ne présente pas un intérêt terrible. L'Esprit m'éleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Donc la porte orientale, c'est sur la droite de la feuille, qui regarde vers l'Orient. C'est donc bien la partie orientale. Donc c'est vers le mont des Oliviers. Hein. C'est l'est, à droite, quoi. Et voici, à l'entrée de la porte, 25 hommes. 25 hommes qu'on avait déjà vus au chapitre 8, verset 16. C'est une blague parce qu'on ne l'a pas fait, mais c'est des adorateurs du soleil. Des adorateurs du soleil levant. Et je vis au milieu d'eux Yazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaïa, prince du peuple. Il me dit, fils d'homme, ce sont ici les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Qui disent, ce n'est pas le moment de bâtir des maisons, et la marmite, elle est la marmite et nous sommes la chair. Alors, deux éléments. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le moment de bâtir des maisons? Peut-être parce que comme il y a de la déportation, il y a beaucoup de logements inoccupés. Donc, on ne va pas bâtir avant longtemps parce qu'il va falloir déjà réoccuper tous les logements vides. Elle est la marmite. Alors la marmite, c'est un récipient du temple pour récupérer le gras. Exode, chapitre 27, verset 3. Ou alors pour récupérer la cendre. Premier livre des Rois, chapitre 7, verset 47. Je tablerai plutôt sur l'intertextualité avec Exode 27 parce que c'est une référence plus dans la couche sacerdotale. Et le récipient du temple pour récupérer le gras correspond à l'arsenal du mobilier dont il est question. Et donc, nous sommes dans la marmite où on récupère le gras, c'est-à-dire qu'on, vous voyez, c'est quand même pas très glorieux. Si vous voulez, on le fera pas, mais vous pouvez aller lire au chapitre 24 d'Ézéchiel ce qui est dit sur l'oracle de la marmite, avec l'histoire de la rouille, tout ça. Bâtir, c'est bana. Et bana, vous l'avez eu un peu plus haut, au verset 1, avec Pelatia, qui est le fils de Benaïa. En fait, c'est quoi ces noms bizarres? Eh bien, ces noms bizarres, ça veut dire que Dieu écoute, fils de l'aide, hein, Ézer c'est aider, fils de l'aide, et puis Dieu s'échappe, fils de Dieu a bâti, hein, puisque Bana c'est construire, Palat c'est s'échapper, Ézer c'est aider, et puis Ozen c'est l'oreille, donc Azan c'est écouter. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise fils d'homme. En fait, c'est le récit de vocation du prophète. Récit de vocation prophétique.
On trouve souvent cette expression « fils.
Oui, on y reviendra à l'occasion, parce que c'est une expression caractéristique d'Ézéchiel, qu'on retrouvera une fois, enfin qu'on retrouve un petit peu chez Daniel que Barnacha, comme un fils d'homme. Et c'est utile pour comprendre ce que signifie l'expression « le fils de l'homme est venu ». Donc, vous avez multiplié le nombre de vos tués dans cette ville et vous avez rempli ces rues de tués. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, vos tués que vous avez mis au milieu d'elle, c'est la chair et elle, c'est la marmite. Mais vous, je vous ferai sortir du milieu d'elle. Vous avez eu peur de l'épée et je ferai venir l'épée sur vous, dit le Seigneur l'Éternel. Et je vous ferai sortir du milieu d'elle. Je vous livrerai en la main d'étrangers et j'exécuterai des jugements contre vous. Vous tomberez par l'épée. Dans les confins d'Israël, c'est-à-dire sur la frontière d'Israël, Giboul, je vous jugerai et vous saurez que je suis l'Éternel. Et le passage du Lévitique que je vous avais mis au tableau, ça finissait sur « vous saurez que je suis l'Éternel aussi ». Elle ne sera pas pour vous une marmite et vous ne serez pas la chair au milieu d'elle. Je vous jugerai dans la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel, dont les statuts duquel vous n'avez point marché et dont vous n'avez point pratiqué les ordonnances, mais vous avez agi selon les droits établis des nations qui sont autour de vous. Donc on retrouve toujours ça en doublon. Et il arriva, comme je prophétisais, que Pelatia, fils de Benaïa, mourut. Donc, vous vous souvenez, on a Yazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaïa. Donc on peut dire Yazania et Pelatia sont dans un temple à Jérusalem. Pelatia meurt, qui reste-t-il? Il risque Pelatia, fils de Benaïa. C'est celui qui sont, c'est Dieu qui sort, enfin Dieu qui s'échappe, fils de Dieu qui construit. Un temps pour construire et un temps pour sortir de la construction. Je tombai face à terre, je criai à haute voix et je dis: ah Seigneur éternel, veux-tu détruire entièrement le reste d'Israël? Et la parole de l'Éternel vint à moi disant: fils d'homme, tes frères, les hommes de ta parenté, toutes les maisons d'Israël et eux tous, sont ceux auxquels les habitants de Jérusalem disent: éloignez-vous de l'Éternel, ce pays nous est donné en possession. Alors, je vous le fais rapide, c'est qu'en fait, on commence la polémique entre ceux qui sont restés à Jérusalem et ceux qui sont déportés à Babylone. Et la polémique, elle est là. Où est le véritable Israël?
Il faut sauter au verset 17.
Oui, oui.
Parce que c'est là que ça veut quelque chose, le verset 17.
Éloignez-vous de l'Éternel, ce pays nous est donné en possession. C'est pourquoi dit, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, bien que je les ai éloignés parmi les nations et bien que je les ai dispersés par le pays, toutefois, je leur serai comme un petit sanctuaire dans le pays où ils sont venus. C'est l'inverse d'Exode, chapitre 25, verset 8. Exode, chapitre 25, verset 8. Notez la référence et vous verrez le sanctuaire. Eh bien, vous voyez, c'est Dieu qui devient un sanctuaire. On passe d'un temple à l'autre. Donc, tant pis s'il n'y a plus le temple de Salomon. N'est-ce pas mieux d'obtenir le temple de Dieu lui-même? Et souvenez-vous que Genèse 1 n'est pas encore rédigé. Genèse 1 va dire la création, c'est le lieu du culte personnel. C'est-à-dire que Genèse 1, le récit de la création, c'est une façon de dire le temple de Dieu, avec plein de petits éléments qui correspondent aux éléments architecturaux du temple, les luminaires, des choses comme ça. Hein, c'est ce vocabulaire-là. Et c'est Genèse 1 est écrit par la couche sacerdotale, contrairement à Genèse 2, l'autre récit de création. Donc, l'idée qu'on va avoir un nouveau sanctuaire, et que c'est Dieu lui-même qui va être le sanctuaire, un retournement de situation. C'est pourquoi dit ainsi le Seigneur l'Éternel, « Aussi je vous rassemblerai d'entre les peuples, et je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, je vous donnerai la terre d'Israël. Et là, ils viendront, et ils en ôteront toutes ces choses exécrables et toutes ces abominations. » Vous voyez, on est passé de la destruction au fait de retirer. « Et je leur donnerai un seul cœur, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Circoncision du cœur. Donc on est bien dans un registre métaphorique, parce que je peux vous le garantir, on peut faire des implants de fesses en ciment, mais on ne peut pas faire de cœur en pierre. Parole de l'Éternel. Donc on est bien dans le jeu de la métaphore. Hein. Le cœur de pierre, c'est une métaphore. Pour les fesses, vous faites comme vous voulez, mais le cœur, vous ne rigolez pas avec ça. Afin qu'ils marchent dans mes statuts et qu'ils gardent mes ordonnances et les pratiquent, ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu.
Ça, c'est le credo des Juifs, hein, aujourd'hui. Hein. Quand on lit au verset 17, aussi je vous rassemblerai d'entre les peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés,
de la Gola.
Je vous donnerai la terre d'Israël. Mmh. C'est ce que disent tous les Juifs.
C'est en tous les cas le discours de ce qu'on appelle le sionisme, c'est-à-dire le rassemblement de la Gola, de la diaspora. Mais on peut imaginer un rassemblement qui n'est pas forcément dans un lieu physique unique. Parce que la création tout entière peut être le temple de Dieu. Et donc le fait d'être éloigné ne signifie pas que l'on soit forcément dispersé. Ça peut être aussi une autre compréhension.
Le vœu et l'espoir de tous les Juifs, c'est de revenir en Israël. La terre est quelque chose de fondamental dans leur
foi. Ah oui, bien sûr. Pour beaucoup, c'est comme ça que ça marche. L'an prochain, à Jérusalem, le temple reconstruit.
Pasteur Rudy, je voulais ajouter qu'il y a une phrase en hébreu qui dit « Le monde n'est pas la demeure de Dieu, mais Dieu est la demeure du monde. »
C'est Ézéchiel. Enfin, c'est ce que dit Ézéchiel. Oui. Alors, Jérémie prophétise que ça vaut encore le coup de construire en Israël et qu'il achète un champ, etc. Parce que lui, Jérémie, ce n'est pas un prophète de l'exil. Il ne sera pas exilé, Jérémie, contrairement à Ézéchiel. Vous aviez une réaction ? Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça.
Et ça élargit le débat, et c'est ce qui se passe même actuellement. Tout le monde est passionniste.
C'est exactement ça.
On pense que Dieu est aux États-Unis, que Dieu est au Japon, que Dieu est en Asie.
Ah oui, si on s'en tient à l'histoire du texte biblique et de la pensée, ou des pensées des textes bibliques, c'est exactement cela. Si on compare Genèse 1 à Genèse 2, Genèse 1 est plus récent, je veux dire. On voit qu'on a un Dieu vraiment universalisé pour l'ensemble de la création, alors que Genèse 2 peut être un Dieu un peu plus national. Mais effectivement, il y a un pur bénéfice théologique, mais du coup de compréhension de soi vis-à-vis du monde, qui fait un bond gigantesque en avant du fait de la déportation et de la confrontation à la civilisation babylonienne. Et il y a une relecture des textes babyloniens par les auteurs bibliques, qui va pousser, disons, les mythes babyloniens à pouvoir dire quelque chose de cette fraternité universelle même. On le voit bien, le début de la Genèse, c'est une réécriture de mythes babyloniens où on ne parle pas d'un... Alors d'abord, ça devient monothéiste, et puis on ne parle pas d'un dieu lié à une nation, mais... un Dieu pour tous, sans exclusive.
Oui, mais pourquoi est-ce que dans l'esprit des Juifs, ils étaient arrivés au fait que Dieu est à Jérusalem et pas...
Parce qu'on leur avait dit que c'était comme ça que ça marchait.
Donc, il y a aussi à cause des persécutions.
Mais vous savez, au XXe siècle... Oui, oui. C'est pas encore gagné, je veux dire qu'il y en a encore beaucoup qui pensent que leur Dieu est au-dessus du Dieu des autres. Et par exemple, il y en a beaucoup qui se disent, parce que les musulmans appellent leur Dieu Allah, c'est donc pas le même Dieu que le Dieu des chrétiens. sur un problème de vocabulaire. C'est même pas un problème sémantique, c'est un problème sémiotique.
Non, non,
c'est la traduction. Oui, si ce n'est que c'est. Alors, oui, si ce n'est que c'est pas forcément la même prononciation et c'est pas la même racine indo-européenne. Mais ça désigne le même réel, mais ça n'a pas la même forme. Voilà. Et parce que la forme est différente, on se dit que du coup, le contenu est forcément différent. Elohim. Mais c'est pas al de sur, de monter. C'est vert. Et je finis avec le verset 23 et 25, sans besoin de commentaires particuliers. La gloire de l'Éternel monta du milieu de la ville et se tint sur la montagne qui est à l'orient de la ville, donc le mont des Oliviers. Et l'Esprit m'éleva, me transporta en Chaldée vers ceux de la transportation, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais vue monta d'auprès de moi. Et je dis à ceux de la transportation toutes les choses que l'Éternel m'avait fait voir. Donc, les exilés ne sont pas des pestiférés. Peut-être il faudra critiquer un peu l'idée selon laquelle ce serait même le véritable Israël. Parce que certains vont aller sur cette piste-là. Voilà.